Le slogan de l'Église, c'est être en Christ, une famille en Église, hein, en action, pardon. En Christ, une famille en action, et c'est ce que le Seigneur, depuis plusieurs semaines, eh bien, je dirais, nous amène dans cette réalité, dans cette vie de résurrection, dans ce processus de résurrection. Est-ce qu'on peut mettre la première diapo? Ce matin, je vais parler sur... parce que vous savez, nous sommes entre Pâques et Pentecôte. Hein. C'est ce qu'on appelle l'Omère. On compte les jours 50 et là, vous avez Pentecôte. Et donc, il y a, je crois et je bénis Dieu pour ce que nous vivons. Moi, en tout cas, je bénis Dieu de ce que je vis dans l'église locale et je vis aussi dans la ville. J'en parlerai. Et vous savez, pendant un moment donné, il y a eu un incident... Hein? Et il y a eu, moi maintenant je ris, vous savez, parce que je connais la tactique du diable, mais Dieu est celui qui change le mal en bien, amen. Et moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a continué à chanter, non pas simplement au travers d'une bande sonore, mais c'est nos cœurs, amen. C'est nos cœurs. Et pendant ce chant, pendant que nos cœurs s'élevaient, Père, nous n'avons qu'un désir, c'est que ce souffle nouveau. Amen. Jésus, nous te couronnons. Et je me souviens, j'aime beaucoup toutes les histoires de réveil. Et en 1904, vous aviez un jeune homme qui s'appelait Evans Roberts, en 1904. Et il avait une faim, une soif de Dieu. Et un jour, un évangéliste est venu, lui a dit, « Eh bien, on ne sait pas quand l'Esprit de Dieu va surgir, mais... donc sois présent. » Et le gars, pendant, alors je ne sais plus exactement, 12 ou 15 ans, écoutez bien, il est venu à toutes les réunions parce qu'il a dit peut-être qu'à ce moment-là le Saint-Esprit va descendre. Amen. Il avait une faim et une soif de l'Esprit, de la rencontre. Et donc il y a, vous savez, les deux premiers critères concernant une vague de réveil. Le premier, c'est Dieu suscite une faim et une soif. Amen. Et c'est pourquoi, en plaisantant, je dis, nous sommes dans les temps de la faim. Mais dans les temps de la faim aussi, F-I-N, mais F-A-I-M. Et Dieu suscite cette faim et cette soif de sa présence, de nous rassembler, de le louer, de l'adorer. Et vous savez quoi? C'est qu'alors qu'il y avait un groupe de jeunes, d'ailleurs, qui a intercédé, qui a prié pendant, je crois, 12 ou 15 ans, il est venu à toutes les réunions, et à un moment donné, l'Esprit de Dieu est tombé. Amen. Et le deuxième critère, vous savez quoi? C'est quand la société va très mal. Il y avait un chaos énorme en Angleterre, et là, voilà que l'Esprit de Dieu est venu. Amen. Donc, je vous invite à... Nous invitons réellement à persévérer dans la foi, dans l'unité. Et je bénis Dieu, eh bien, pour ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Donc, nous devons persévérer, pousser, avoir cette endurance de la foi. Et alors que je méditais, voilà, entre Pâques et Pentecôte, j'ai dit, Seigneur, mais quelle est la pensée que tu as? Et j'ai eu à cœur de vous parler des cinq sources de puissance. Amen. Parce que, frères et sœurs, ce que Dieu est en train de un processus de... Il ouvre nos sépulcres. Voilà, Seigneur, j'étouffe dans mes sépulcres un désir de liberté, un désir, une faim, une soif de lui. Et ensuite, cette faim et cette soif d'être une porte de gloire, cette faim et cette soif de garder notre cœur, d'être ensemencé par la vérité qui nous a franchis, afin que nous puissions être des fils et des filles du royaume, semence dans le monde. Mais ce que nous avons besoin, c'est la puissance. Amen. Eh bien, il nous est dit que l'apôtre Paul dit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Amen. Vous voulez qu'il y ait une démonstration d'esprit de puissance? Ça commence. Il y a un frémissement. Il y a, ces prémices qui sont là. Et c'est pourquoi il est très important que nous puissions... notre foi doit être établie non pas simplement sur des expériences, mais notre foi doit être bâtie sur la parole de Dieu. Amen. Doit être fondée sur la parole de Dieu. Et on va voir rapidement les cinq sources de puissance. J'en ai trouvé cinq, mais il y en a peut-être d'autres. Hein. Et vous connaissez ce monsieur-là? C'est quoi? C'est qui, là? C'est Goliath, voyez. Et dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 40, David prit son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger, dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Et il y avait en lui un esprit d'indignation. Qui es-tu, toi, qui insultes le Dieu, toi qui es un incirconcis? Vous voyez, il y a une indignation. Je ne sais pas vous ce que vous vivez, mais moi, j'ai une indignation quand je vois la souffrance. Il y a une indignation quand je vois la maladie, l'infirmité, quand je vois des personnes qui sont dans des jougs de servitude. Et David, eh bien, avait fait l'expérience. Dans sa jeunesse et aussi dans... Il gardait les troupeaux et je vous conseille, avant d'attaquer un géant, commencez à chasser l'ours et le lion. Parce que vous allez... Et donc, il y a eu un entraînement, un apprentissage au travers de la fronde. Donc, le bâton signifie l'autorité. Dieu nous donne un bâton. Amen. Et quand vous lisez le livre d'Exode, j'aime beaucoup. Il nous est dit à un moment donné, il nous est parlé du bâton de Moïse. Mais quand Moïse se trouve devant Pharaon, il nous est parlé du bâton de Dieu. Amen. C'est-à-dire, il y a une autorité que Dieu nous donne et nous devons, frères et sœurs, exercer notre autorité d'abord dans notre quotidien, sur les ours, sur les lions, sur la crainte, sur l'inquiétude, tout cela, et ensuite, grandir. Amen. Un jour, quelqu'un dit, quand Dieu amène une promotion dans ta vie, il t'envoie un géant. David était un berger, et après, il s'est retrouvé à la cour du roi. Alors, il y a la notion du bâton, il y a la notion des 5 pierres polies. Alors, je n'ai pas retrouvé le verset, mais je me souviens, Ismaël Sadok, il nous avait posé la question, il dit, mais pourquoi il n'en a pas pris une, mais 5? Parce que Goliath avait 4 frères. Oh. C'est-à-dire, alors qu'il a conscience qu'il y a des géants qui viennent, il dit, moi, je vais tuer toute la famille. Amen. Les cinq, eh bien, pierres polies qui nous parlent du torrent de la parole de Dieu. Vous voyez, ces pierres polies, ce sont pour moi, c'est de la parole de Dieu qui est là. Et nous allons voir, en tout cas, 5 sources de puissance. Voilà, des révélations que vous avez, des paroles que vous avez méditées qui sont en vous. Amen. Et qui nous amènent, eh bien, dans cette réalité, eh bien, du combat spirituel. Amen. Des paroles que Dieu vous a données, que vous pouvez lancer à la face du géant. Amen. Il est mis dans sa gibecière et le berger est dans sa poche. Puis sa fronde. Sa fronde, pour moi, ça fait partie de l'intercession. Korababa shikereba. Et Korababa. Entraînez-vous. Amen. Et vous allez voir le bâton, les pierres, la parole polie, c'est-à-dire révélée, la parole réma et ensuite la fronde. Eh bien, nous pouvons, je dirais, avoir des victoires en victoire. Et vous avez fait quoi? Il y aura des témoignages. Amen. Vous savez, le témoignage de Jésus, donc notre frère nous a parlé d'un texte d'Apocalypse 12, mais il y a aussi Apocalypse 19, verset 10. Eh bien, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Quand vous témoignez de ce que Dieu fait, vous libérez l'esprit de Dieu. Amen. Et l'esprit de Dieu va toucher, va guérir, parce qu'il y a des situations aussi dans lesquelles les gens se reconnaissent. Alors, la première source de puissance, c'est la croix. Oh, oh. Souvent, on l'oublie, ça. Et il nous est dit, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, la parole, la prédication, le message de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Amen. Les Juifs demandent des miracles, ça c'est les charismatiques. On demande des miracles. Les non-charismatiques, les Grecs, cherchent la sagesse, mais nous, nous prêchons Christ crucifié. Amen. Christ crucifié, scandale pour les Juifs et les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Amen. La première source de puissance, c'est la croix, c'est l'œuvre de Christ, le tout accompli. Amen. Et vous savez, dans le livre je ne sais pas si vous vous souvenez, un vieux bouquin de Watchman Nee sur les Éphésiens, Il parlait de ça. Il parlait d'abord, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ensuite, nous devons apprendre à marcher avec Christ. Et ensuite, nous devons apprendre à tenir ferme. Parce que nous avons un combat. Hein. Donc, la parole de la croix, c'est une puissance pour ceux, eh bien, pour ceux qui périssent. Mais nous qui sommes sauvés, la croix est une puissance de Dieu. Amen. Amen, frères et sœurs. La croix, c'est la première source de puissance. Elle, par la croix, moi c'est un verset que j'aime beaucoup, c'est « Il a dépouillé les dominations, les principautés, les a livrées publiquement en spectacle par la croix. » Donc l'or, ce sont pour moi des pierres polies que le Seigneur m'a révélé, que j'envoie, voyez, la prédication de la croix, on peut parler du sang de Jésus, de l'œuvre de Jésus, tout cela, eh bien cette puissance a détruit la puissance du péché, elle nous réconcilie avec Dieu le Père, elle apporte le pardon, elle détruit le pouvoir du diable, elle nous protège des attaques du diable à la fois, de la tentation, de l'accusation, mais aussi quelque chose qu'on oublie, c'est que la croix, eh bien, non seulement détruit la puissance du péché, mais je dirais crucifie l'ancien moi. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et dans cette union avec Christ, au travers de ce qu'il a accompli à la croix, eh bien, il y a cette puissance de Dieu qui est libérée et tout géant de condamnation, de culpabilité, alors que nous confessons nos péchés, alors que nous venons à Christ, eh bien, vole en éclats. Donc la première puissance, c'est la parole de la croix. Amen. La croix est le premier, le plus important instrument par lequel Dieu applique sa volonté, son caractère dans notre vie. Hein? Si tu veux me suivre, renonce à toi-même, porte ta croix. Vous voyez, cette croix qui crucifie notre chair. La deuxième point, c'est la notion de la résurrection. Et on le dit souvent quand on fait des baptêmes, nous sommes ensevelis avec Christ, mais nous sommes ressuscité avec Christ. Hein. Alors mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Acte 2, 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'elle soit retenue par elle. C'est-à-dire que quand vous lisez le livre des Actes, ils avaient une conscience de la résurrection du Christ. Amen. De la résurrection. Et quand ils se saluaient, ils disaient « Christ est ressuscité ». L'autre répondait « Christ est réellement ressuscité ». Amen. C'est pourquoi ils pouvaient endurer toutes sortes d'épreuves, toutes tentations, tout cela. Eh bien, parce qu'ils savaient une chose, c'est que non seulement il y avait l'œuvre de la croix, mais il y avait cette résurrection. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Amen. Amen. Et frères et sœurs, alors que nous venons d'une culture catholique, je peux vous assurer, quand vous pensez à Christ, vous pensez tout de suite à la croix. Mais je vous invite à penser à la résurrection, amen, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu de vivants, et l'ange a dit à la femme, il n'est point ici, amen, il est ressuscité. Et c'est pour ça la puissance de résurrection en vous. Hein. Et la mort, les liens de la mort n'ont pas pu retenir le prince de la vie. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Amen. Donc la notion de la résurrection. Amen. Il y a aussi cette notion de l'ascension. Hein. Donc vous savez que le week-end prochain, on parle de l'ascension. Hein. Et ce texte, cette prière de Jésus, de Paul dans les Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1, versets 19 à 23, « Quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force ?» Vous voyez, la résurrection, il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, avec moi, toute autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette réalité. Et non seulement nous sommes ensevelis avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ, mais nous sommes assis ensemble en Christ dans les lieux célestes. Amen. Amen. Et si vous avez cette vision-là, vous regardez le diable d'en haut. Ce n'est pas les circonstances qui vous dominent, vous ne subissez pas les circonstances, mais vous dominez les circonstances, non pas par vous-même, mais parce que vous êtes assis en Christ dans les lieux célestes. Amen. Vous êtes assis où ? Amen. Chaque matin, si vous faites cette prière, je peux vous assurer, il y a une transformation. Et Dieu veut, frères et sœurs, que nous puissions grandir en maturité, en autorité. Et non seulement entendre ces choses-là, mais aussi les vivre. Amen. Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Il y a des puissances de mensonges. Il y a des puissances de séduction. Il y a des puissances d'oppression, comme d'asphyxie, allergie, le mot allergie. Vous vous souvenez, là, Philippe, son témoignage. Amen. Seigneur, je suis assis avec toi et nous sommes assis en tant que membres de l'église du tabernacle. Nous sommes assis ensemble. Nous avons été ressuscités ensemble et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Amen. Au-dessus de toute autorité, principauté. Amen. Alléluia. Et quand je vois la ville de Lyon, il y a 20 ans, je disais, la ville de Lyon, c'est la ville de c'est le centre mondial ou européen de la sorcellerie. Maintenant, je dis, la ville de Lyon, c'est la ville du grand roi. Pourquoi ? Parce que ma perspective a été différente. Nous ne devons pas sous-estimer la puissance du diable, mais non pas aussi la surestimer. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et le défi, c'est de demeurer en Christ. Le défi, c'est de demeurer dans la parole. Le défi, c'est de demeurer dans cette vie de résurrection et dans cette position. Amen. Au-dessus de toute principauté. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez que nous sommes dans une guerre spirituelle actuellement. Mais nous disons cela que nous sommes assis au-dessus de toute principauté. De toute autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom. Amen. Et dites ça dans pour votre vie, alors qu'il y a peut-être des vagues d'oppression, toutes ces choses-là. Vous demeurez ferme dans votre foi. La quatrième puissance, c'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. Vous voulez pas être revêtu du Saint-Esprit ? Amen. Le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert. Et il a été confronté par rapport à son identité. Si tu es le Fils de Dieu. Et frères et sœurs, le premier pas, c'est que nous puissions avoir la révélation que nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. C'est notre identité, c'est la révélation du Père qui dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est comme ça qu'on va sortir du labyrinthe. En regardant en haut et en entendant cette voix qui dit, tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Et si tu pèches, eh bien tu as un avocat auprès du Père. Amen. C'est Spurgeon qui dit, l'avocat des saints se lève par rapport à l'accusateur des frères. Amen. Donc le Jésus qui se lève. Et l'onction du Saint-Esprit. Moi je peux vous assurer qu'on a besoin de ça. On a besoin de comprendre la réalité de la croix, la réalité de la résurrection, la réalité de Christ, de notre union avec Christ dans son ascension. Et il nous est dit, mais vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle. Vous voyez, il est rentré, conduit par l'Esprit Jésus. Il a gardé cette position de fils et de fille, de fils de Dieu. Et quand il est sorti, il était revêtu du Saint-Esprit. Amen. Oh, alléluia. Vous ne voudriez pas, quand on vous croise, on dit cet homme, cette femme, oula, elle est revêtue de l'Esprit de Dieu. Ils reconnaissaient comme quoi les disciples étaient des... C'est comme ça que le premier mot à Antioche, chrétien, c'est un colibé. Ah, ce sont des petits Christ. Oui, mais quand il disait, on n'a ni or ni argent, mais au nom de Jésus, eh bien, lève-toi et marche. Un jour, un pasteur en plaisantant, il dit, l'Église actuellement, l'Église a de l'or et de l'argent, mais elle n'a plus. Lève-toi et marche. On a besoin de la puissance. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé, je crois que c'est Josette qui a parlé de cette réalité du surnaturel. Alléluia, Seigneur, merci. Nous avons besoin d'une onction de l'Esprit. Amen. Et vous savez, cette onction est libérée quand ? Il y a des conditions pour que l'onction descende. Quand des frères et sœurs demeurent ensemble, c'est là que l'onction descend. De la tête jusqu'au bord du vêtement, il y a un rafraîchissement. Alors maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Je ne sais pas si vous voyez, alors je ne sais pas ce que le demain nous, voyez, nous réserve, mais eux, quand ils étaient en pleine persécution, tout ça, ils ont dit « Seigneur, Seigneur !» Que je ne puisse pas perdre ma maison, que les banques ne puissent pas s'écrouler, tout ça. Non, non, ils ont dit, ils avaient toujours une dynamique, ce qu'on appelle missionnaire apostolique, et donne à tes serviteurs, ils ne priaient pas pour eux-mêmes, ils priaient pour que la parole de Dieu, les serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, étant ta main, pour qu'il se produise des guérisons, il n'y a personne qui dit amen là, des signes et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Amen. Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, de crainte, mais il m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et lorsque je suis uni en Christ, j'ai cette révélation que Christ vit en moi. Christ en moi, alors c'est la puissance de Christ qui est libérée. Hein. C'est le nom de Jésus qui libère. Amen. Alors, je vais vous poser une question. Pour vous, quel est... Alors, le Saint-Esprit, vous lisez ça dans Jean 14, et Gabi nous a parlé d'un souffle nouveau. Moi, je crois qu'il est très important d'avoir une communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Hein, que la grâce de notre Seigneur Jésus, vous voyez, que l'amour du Père, l'amour de Dieu, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Quelle est pour vous la cinquième source de puissance ? Est-ce qu'il y a d'autres... Ça va, il est 11h34, c'est bon. Quelle est la... Il y a la croix, la résurrection, l'ascension... L'onction du Saint-Esprit, quelle est la cinquième source ? La Pentecôte, je dirais, bon, c'est l'onction d'esprit, hein, acte 1-8. L'intimité, oui, ça fait partie de notre relation avec la résurrection du Christ, avec j'ai une communion avec le Père, le Fils, Saint-Esprit. La souffrance. Il n'y a personne qui dit amen là. Alors, j'ai hésité, je ne savais pas s'y mettre souffrance, je ne savais pas s'y mettre faiblesse. Mais écoutez bien ceci. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Donc, vous savez une chose, hein. Donc 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul, il a été élevé, hein, au troisième ciel. Et on ne sait pas ce qu'il nous est par, il nous est dit qu'il a entendu des choses ineffables. Hein. Moi, je peux vous assurer que si quelqu'un actuellement est transporté au troisième ciel, dans le mois, il va écrire un livre. L'apôtre Paul n'a rien dit. Vous savez pourquoi ? J'ai médité ce texte. Parce qu'il ne voulait pas que les gens croient que c'était à cause de ses mérites qu'il a été élevé au troisième ciel. Il voulait rester dans cette intimité avec son Seigneur. Voilà, il a vu le Christ ressuscité sur le chemin de Damas. Il y avait cette intimité, il a entendu des choses. Alors j'aimerais bien savoir, hein, ce qu'il a entendu, mais ce n'est pas écrit. Et il vit une autre réalité, c'est l'écharpe dans la chair. On a beaucoup discuté là-dessus. On a dit que j'ai découvert ça. Disons, j'ai découvert, je le savais, mais rappelez ça. Il y en a dit que l'apôtre Paul bégayait. Il y en a qui disent que l'apôtre Paul avait des problèmes de vue. Et il y en a d'autres qui disent que l'écharpe, ce sont des puissances spirituelles. Vous voyez, qui l'attaque, qui l'agressait à chaque fois. Et l'apôtre Paul dit, eh bien, je prie que cette, comment dire, que tu éloignes de moi par plusieurs fois. Et il découvre quelque chose que nous devons découvrir, parce qu'attention les amis, moi je peux vous assurer, la puissance, je dirais la source de la puissance doit nous maintenir dans l'humilité. Oh, ça marche ensemble, l'humilité. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Amen. Et alors, attention, hein, je ne fais aucune critique, mais attention les amis, par rapport à tous ces mouvements, je suis en train d'étudier la théologie de la prospérité, toutes ces choses-là. Mais il y a des dérives. Et je ne sais pas si vous avez vu, dans France 2, il y a eu un reportage sur les méga-églises. Je ne citerai pas les noms pour éviter que vous croyiez que, et je bénis toutes ces, je crois qu'il faut différents types d'églises. Mais il y a un spécialiste, Stéphane, je le connais d'ailleurs, qui a parlé, un évangélique, hein, et dit, attention, c'est super d'avoir une visibilité au niveau des médias, au niveau de tout ça, mais attention que le pasteur ne devienne pas une star. C'est le danger. Et c'est pourquoi, moi je peux vous dire que la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Et l'apôtre Paul a révélé, comment dire, Dieu s'est révélé. Voilà, il m'a dit, des fois, je ne sais pas si vous, il y a des choses, ça revient tout le temps. Seigneur, mais pourquoi tu n'interviens pas? Ça vient, ma grâce te suffit. Car ma puissance, donc on parle des cinq sources de puissance, s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'aurais jamais écrit ça. Je vais me glorifier de ce que j'ai fait à droite, à gauche. Il se glorifie de ses faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. L'important, ce n'est pas que tu sois vu, mais que Christ soit vu. L'humilité. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Et j'aimerais que nous puissions réaliser cela. Et ce matin, on va simplement prier. Je ne veux pas aller plus loin, mais simplement, il est important de réaliser que nous avons tout pleinement dans le Christ. Amen. Et vous savez, dans la réalité de la vie chrétienne, il y a des tribulations, il y a des souffrances, il y a des combats, il y a des épreuves. Amen. Et dans certaines théologies, notamment la théologie de la prospérité, un chrétien doit toujours, donc, doit être sauvé, doit être riche et en bonne santé. Oh! Ayons du discernement, frères et sœurs. Mais par contre, c'est notre ami Jean-Marc Potenti qui écrit par rapport à ça. Il dit, attention de ne pas évacuer toute la dimension de la foi. Amen. La dimension de l'imposition des mains concernant. Amen. Nous croyons dans la guérison. Nous croyons que le Seigneur est celui qui pourvoit. Amen. Mais la provision de Dieu, la prospérité de Dieu, c'est que tu ne manqueras jamais de rien. Amen. Donc, voilà, dans les outrages, dans toutes ces choses-là, dans les épreuves, je ne comprends pas toujours la raison de mes épreuves, mais je loue Dieu pour le résultat de mes épreuves. Amen. Des fois, on ne comprend pas, Seigneur. Je te fais confiance, je ne comprends pas. Nous sommes appelés non seulement à croire en Jésus, mais à souffrir ensemble avec lui. Et donc, cette notion de souffrance, de persévérance, de aller prêcher, excusez-moi, moi je suis un provocateur, aller prêcher la théologie de la prospérité chez les chrétiens en Chine, en persécution. Ils vont vous dire, mais t'es complètement à côté de la plaque. Ceux qui souffrent à cause de la persécution au niveau de l'islam, tout cela. Amen. Et donc, frères et sœurs, il est très important de revenir donc à ces fondamentaux, la croix, la résurrection, l'ascension, l'onction de l'esprit, amen, et aussi la notion de notre faiblesse. Et vous savez que c'est dans notre faiblesse. La faiblesse, la grâce, c'est dire, Seigneur, je dépends entièrement de toi. Seigneur, c'est toi, c'est pas moi, ça vient pas de moi. J'ai pas foi dans ma foi, j'ai foi en Dieu. Je développe une confiance en Dieu, malgré les épreuves, tout cela. Amen, ma grâce te suffit. Et Philippiens 3:10, mon but c'est de le connaître. Donc tout à l'heure, Cynthia parlait de cette relation avec Dieu. Mon but c'est de le connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion avec ses souffrances. Et je dis, Seigneur, mais pourquoi moi j'aurais écrit, hein? Heureusement que je n'ai pas écrit la Bible. Hein? Moi j'aurais écrit, mon but est de le connaître, de connaître la communion de ses souffrances, la croix, et ensuite la puissance de sa résurrection, d'une manière chronologique. Et le Seigneur me dit, non, 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 parce que si tu as une communion d'abord avec les souffrances, tu risques de t'apitoyer sur toi-même. Tu risques de vivre un évangile de la misérabilité. Voilà. Ah, vous savez, on va faire la quête dans l'église. Plus tu te flagelles, plus tu es saint. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque je réalise que d'abord, il y a la puissance de résurrection en moi. Amen. Je suis né nouveau. Je suis une nouvelle créature. Je suis fils de Dieu par la foi. Je suis réconcilié avec le Père. Amen. Et la vie de Dieu en moi, eh bien, me sauve de toutes sortes de difficultés. Alors après, je peux souffrir avec celui qui souffre et pleurer avec celui qui pleure. Amen. Non pas dans l'apitoiement, mais dans la compassion. Et très important, alors que je parle de la puissance, la compassion, vous savez, ne cherchez pas la puissance, cherchez la compassion. Et la compassion va ouvrir une porte. Amen. Alors on va chanter un dernier chant, c'est... ah oui, j'ai oublié. Oh oui, bon, c'est bon. Vous aviez Goliath, hein. David prit en main son bâton, choisit 5 pierres. Je vais vous inviter à vous lever et on va chanter un chant. David prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger, dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alléluia, commencez, agitez vos frondes là. Korababababayeket. Alléluia, est-ce qu'il y a un ours, il y a un lion ou il y a un géant? Amen. Mais dans le nom de Jésus. Et je crois que Dieu veut fortifier notre foi afin que nous puissions exercer ces choses dans nos jours, dans lundi, mardi, mercredi, voyez, dans notre contexte familial, professionnel. Nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons apprendre à dominer au milieu de nos ennemis, amen, non pas par nous-mêmes. Alléluia, et il y a cette fronde de la prière, et nous allons prier ensemble. Il y a cette fronde, il y a cette pierre aussi de la croix, il y a cette pierre de la résurrection, de l'ascension. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen, il y a cette alléluia, tu vas rafraîchir plusieurs. Il y a cette pierre de l'onction de l'Esprit. Seigneur, viens nous revêtir d'une onction nouvelle, rafraîchissante, un souffle nouveau. Il y a aussi cette puissance qui s'accomplit dans notre faiblesse. Amen. Alors on va chanter ce vieux chant, Assaillons les villes. Amen. Vous aimez? Alléluia. Avant, gérez d'abord vos ours et vos lions et on va abattre les géants. Il y a 15 jours, j'étais avec 7 leaders. Des pasteurs avec le comité, on a le CA, on a amené avec Jean Schott, on a repéré 7 leaders, eh bien des pasteurs de la nouvelle génération. On leur a dit voilà ce que nous avons à cœur, c'est une dynamique inter-église au niveau de la jeunesse, afin qu'ils puissent eh bien agir. Et qu'est-ce que vous pensez? Il y avait Matt Mavan, il y avait Yvon Oketou, il y avait Paul Savietjean, il y avait Lucas Munoz, il y avait un frère Steve de l'église de QC, il y avait plusieurs qui étaient là, et ils ont dit, nous voulons nous lever pour le témoignage de Jésus dans cette ville. Et derrière ces 7, vous savez combien il y a de jeunes? 800. Je vous dis ça, Parce qu'Assaillons-les-Villes, c'est pas simplement une belle, voyez. C'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Amen. Et le Seigneur, eh bien, veut que nous puissions aller de l'avant. Amen. Il y aura l'évangélisation Place Bellecour. Fin septembre, il y aura autour de la Coupe du Monde de rugby. Il y aura des jeunes dans différents quartiers qui vont aller, qui vont témoigner. Il y a une équipe d'internationaux de rugby italiens qui vont venir et qui vont témoigner de la puissance de Dieu. Amen. Assaillons-les-Villes, c'est une réalité. Par la puissance du Saint-Esprit, par le témoignage de notre vie, par une vie, eh bien, où nous laissons Christ. Et comme disait Gabi, être une porte de gloire. Amen. Alors assaillons les villes. En tout cas, merci hein, pour votre patience. Allez, assaillons les villes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté ça. Hein. On sort de la dépression, on sort de l'incrédulité. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand la foi monte, l'espérance monte. Amen. Si tu n'as pas d'espérance, c'est que tu as un problème avec la foi. Donc tu nourris ta foi pour nourrir ton espérance. Amen. Et Dieu, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il te remplit d'amour. D'amour pour les malades. D'amour pour les boiteux. D'amour pour les aveugles.